Et après, derrière, la deuxième chose qu'on dit également, c'est donnons la priorité complète à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, la réduction de la demande, c'est-à-dire sobriété, efficacité. Donc, une fois qu'on a fait ça, et ça c'est la priorité absolue, après il faut bien à un moment donné produire de l'énergie, produire physiquement de l'énergie. On ne se nourrit quand même pas de négawatts, hein, quelque part. On diminue, mais après il faut produire.
Alors quelles énergies ?
Quelles énergies ? Et là on dit, regardons, sans religion, sans état d'âme, avec les critères les plus construits possibles.
Les plus scientifiques.
Exactement, l'ensemble des énergies. Et adoptons une démarche multicritères, hein, sur les énergies pour voir celles qu'on va retenir. Là, on s'aperçoit que, pour revenir au nucléaire, il est bon sur un point, qui est celui des émissions de CO2. Et encore, si on gratte un petit peu, il y a aussi des émissions, parce qu'on ne produit pas de l'uranium au Niger sans faire des émissions de CO2. Il y a du transport, il y a des machines, etc. Puis ce démantèlement, bref. Mais il est tout à fait exact que le nucléaire émet moins de CO2, bien sûr. Ça, on ne le conteste absolument pas.
Mais
il y a tout le reste. C'est-à-dire, est-ce que le nucléaire ou les autres énergies, est-ce qu'ils sont bons pour le territoire? Est-ce que c'est bien pour l'emploi? Est-ce qu'on va léguer aux gens qui vont nous suivre, aux générations à venir, finalement, des équipements en état de marche, en gros, des rentes, en quelque sorte? Ou est-ce qu'on va leur léguer des emmerdements et des charges, en gros? Voilà. Est-ce qu'on utilise bien les ressources à notre disposition? Et puis un point très important, c'est est-ce qu'on utilise des ressources de la nature qui sont des ressources de flux et pas de stock? Et ça, c'est un point que j'aurais un tout petit peu développé. On est sur un système énergétique fondé sur de la prédation sur des stocks. Un stock de gaz, un stock de pétrole qu'on va chercher très loin, un stock d'uranium. Et actuellement, il n'y a aucun gramme d'uranium qui soit extrait des mines de France, elles sont toutes fermées. Donc on va venir chercher l'uranium au Niger, au Canada, en Australie, etc.
Et au Katanga, oui.
Au Katanga, etc. Donc finalement, qu'est-ce que c'est? On est dans un pays sur lequel on ne fonctionne qu'en étant en quelque sorte prédateur de ressources énergétiques externes. Et en même temps, on est également dans un pays qui bénéficie de ressources naturelles au niveau des énergies renouvelables, tout à fait fortes. De façon absolument étonnante, la France est sans doute le pays européen qui a le plus d'énergies renouvelables. On les a toutes. On a du soleil, on a de la géothermie, on a de l'éolien, le deuxième gisement européen en matière d'éolien, et puis on a une formidable énergie insuffisamment développée, c'est ce qu'on appelle la biomasse. Le bois, les coproduits, ce qu'il y a dans les sous-produits agricoles, etc. Donc, il faut travailler avec ce mix énergétique formidable qui est à notre disposition, et de façon prioritaire. L'énorme avantage, c'est qu'on travaille avec nos énergies, c'est-à-dire avec ce qui arrive sur le territoire, et en dehors de cette prédation qui nous met même dans un état d'insécurité par rapport à ce qui peut advenir demain, sans compter que les ressources sont limitées.
Thierry Salomon, si on prend quelques énergies, le solaire, l'éolien, biomasse dont on vient de parler, le nucléaire, le pétrole, le gaz, etc., à chaque fois qu'on en prend, on en prend une de ces énergies, avant d'arriver à mesurer tous les avantages et tous les inconvénients de chacune de ces énergies, on a du souci à se faire, il y a du boulot à se faire. Et la question, c'est l'indépendance des chercheurs. Hein, c'est un grand souci, ça, actuellement. Toute la recherche et développement est liée à des entreprises, liée de plus en plus à des multinationales. Vous parliez de la spéculation et de ces traders, etc. Nous, ce qui nous a intéressés en vous faisant venir, on s'est dit, ce gars-là, il a l'air d'être indépendant. Et ils ont l'air, ensemble, d'avoir trouvé une façon indépendante, véritablement indépendante, de travailler et de produire des idées, de produire des scénarios. Est-ce que c'est bien à ça qu'on a affaire aujourd'hui en vous invitant ?
Daniel, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important, qui est le manque complet d'expertise indépendante en France, actuellement.
Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire ? On a un nuage radioactif qui est en train de passer au-dessus du pays. On est en train de nous dire qu'on n'a pas de chercheurs indépendants ou qu'il n'y a pas de recherche véritablement indépendante.
Oui.
Derrière chacune de ces énergies, on trouve des lobbies extrêmement puissants avec des chercheurs comme vous, des ingénieurs et des experts comme vous qui sont du côté de ces lobbies. Et on peut très bien, d'ici une heure, avoir des experts qui viendront démontrer et nous enfumer complètement parce qu'on n'a pas la compétence, nous, comme journalistes, avec la meilleure volonté du monde, on n'arrivera pas à nous opposer véritablement à cette force. C'est une force extraordinaire.
Oui, oui, oui. D'ailleurs, vous parlez de termes de fumée. Effectivement, par exemple, on a eu... Sur